Bonjour, bienvenue à tous sur cette place d'Herbès. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Marie-Fleur Albecker et Bruce Bégou pour une discussion autour de leurs deux romans parus à la rentrée et dont le point commun est de s'emparer d'événements historiques, événements plutôt méconnus. On va voir lesquels dans un instant. Alors Marie-Fleur Albecker et nous abattrons l'arrogance... Pardon. Excusez-moi, et j'abattrai, ouais, j'ai écrit une bêtise et je la redis, et j'abattrai l'arrogance des tyrans à Paris aux forges de Vulcain. C'est votre premier roman, vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un lycée en région parisienne, et vous avez choisi un sujet qu'on connaît peu, c'est une révolte paysanne qui a eu lieu au XIVe siècle en Angleterre, précisément en 1381. Alors la guerre de Cent Ans et la peste noire ont ruiné le royaume, et quand le roi, on est en plein pendant la guerre de Cent Ans, hein. Et quand le roi Richard II Plantagenet décide d'augmenter les impôts, les paysans vont se rebeller et marcher sur Londres. Alors parmi eux, il y a une femme, Johanna, c'est un personnage fictif.
Alors en fait, c'est un personnage, comment dire, il y a des sources qui évoquent ce nom de personnage dans cette révolte-là, mais comme beaucoup de sources qui parle des femmes au Moyen-Âge, on n'est pas sûr, parce qu'il y a d'autres sources qui parlent d'un John plutôt que d'une Johanna. Donc moi, j'ai choisi de croire que c'était une femme, et puis j'ai inventé une vie. Voilà.
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'est un personnage un peu composite, oui. Fait à partir d'autres personnages de femmes existants. Bruce Bégou, vous êtes philosophe, spécialiste de la phénoménologie de Husserl. Vous êtes également romancier, citons L'éblouissement des bords de route, Le parc et On ne dormira jamais, qui avait paru chez Alia. Le premier était paru chez Vertical. On vous doit aussi des essais, Suburbia, Derryville. Alors, le sauvetage paru chez Fayard à la rentrée lit votre œuvre romanesque et vos recherches philosophiques, puisque ce roman tourne autour des manuscrits inédits de Husserl. 40 000 pages de manuscrits sauvés des griffes des nazis et d'une destruction probable dans l'Allemagne nazie. C'est bien sûr un magnifique sujet de roman que vous abordez à partir d'une figure forte, un père franciscain, Léo van Breda, qui a réellement existé et qui a écrit cette histoire en 1959 un petit peu par la petite porte, parce que c'était un homme très discret. On va voir comment vous mettez ce personnage en fiction. Comment l'un et l'autre vous êtes-vous intéressé à ce sujet, Marie-Fleur Albecker? Vous êtes tombée un peu par hasard sur cette histoire?
Oui, alors moi c'est très concret. C'est en préparant un cours pour mes élèves sur le Moyen-Âge anglais. Voilà. Et donc je suis tombée sur cette histoire de révolte qui est très connue en Angleterre. Et en fait, à ce moment-là, j'aime beaucoup le Moyen-Âge, donc j'ai commencé à creuser un petit peu et je me suis rendu compte, parce que moi je connaissais la révolte des paysans un peu plus tard en Allemagne, de la Réforme en 1524, et je me suis rendu compte qu'en fait, parce que je me suis dit, quoi, des paysans qui se révoltent, mais parce que bon, ça, comme, dit comme ça, ça a l'air un petit peu... voilà, une bande de pataux, les pieds dans la boue, etc. Mais en fait, non, je me suis rendu compte que c'était très, très, très fréquent, les révoltes sociales au Moyen-Âge. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, ben, j'ai commencé à creuser un petit peu plus. Et c'est de là d'où c'est parti.
Bruce Bégou, c'est donc en tombant sur ce livre de Léo van Breda que vous avez dit que c'était un sujet de roman absolument magnifique.
Oui, en fait, je faisais moi-même des études à l'École normale supérieure à rue d'Ulm, à Paris. Et il y a des archives Husserl à Paris, à l'École normale supérieure. Et j'ai fait mon DEA, enfin à l'époque on appelait ça un DEA sur Husserl. Donc j'ai, dès l'âge de 20 ans, 21 ans, j'ai travaillé sur ces manuscrits. Donc je ne pouvais pas ne pas connaître l'histoire de ces manuscrits. Donc je connaissais l'histoire qu'avait raconté van Breda. Et en fait, quand j'avais 20 ans, dès cet âge-là, je me suis dit, mais quel roman formidable cela ferait si quelqu'un s'en emparer, sauf qu'ensuite, j'ai fait plein de choses, je n'avais pas forcément le temps de travailler, puis j'espérais que personne ne s'empare de cette histoire aussi, de manière un peu égoïste. Et donc, j'ai mis presque 30 ans, en fait, avant d'écrire cette histoire, que je connaissais début des années 90, en fait. Et parce qu'au fond, si Van Breda n'avait pas existé, moi-même, je n'aurais pas fait forcément ma thèse sur Husserl, parce qu'il a travaillé sur... J'ai fait ma thèse sur ses manuscrits inédits, qu'il a sauvés. Donc, s'il n'avait pas fait s'il n'avait pas effectué, au fond, ce qu'il a fait, ce sauvetage, sans doute que mon propre destin aurait été changé. Enfin, dans une moindre mesure, mais enfin, c'est... Peut-être que je n'aurais pas fait de thèse sur Husserl, et peut-être que je n'aurais pas eu de poste dans cette université, je n'aurais pas rencontré telle ou telle personne, donc mon parcours précédent aurait été sans doute modifié.
Alors, se pose pour tous les deux la question des sources et du matériau documentaire. Marie-Fleur Albecker, comment avez-vous travaillé? Vous avez lu beaucoup de travaux d'historiens?
Alors, il n'y en a pas énormément, quand même. Évidemment, c'est le Moyen-Âge, donc il y a moins de sources, même si on commence à être dans un Moyen-Âge un peu lettré. J'ai la chance d'avoir un collègue et un très bon ami qui, en fait, est un des fondateurs des Forges de Vulcain, qui sont des historiens médiévistes. Et du coup, je leur ai demandé, bon, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qui est à la page sur ce sujet, parce que je ne voulais pas non plus m'enterrer sous les lectures. Donc, j'ai lu pas mal d'ouvrages généraux sur l'Angleterre au Moyen-Âge, mais j'ai dû lire, je ne sais pas, 5-6 ouvrages, j'ai essayé de ne pas trop lire, sachant que le Moyen-Âge tardif, c'est une période que je connaissais bien par ailleurs, parce que pendant mes études, notamment quand j'ai passé l'agrégation de géographie, mais il y a aussi de l'histoire dans l'agrégation de géographie, j'avais cette période au programme. Donc du coup, ça me permettait d'avoir un peu en tête aussi le contexte. Et puis après, moi j'ai bien aimé en fait utiliser un événement historique, parce qu'il y avait un côté très simple, dans la construction, parce que moi j'ai un peu de mal, enfin c'est mon premier roman publié, mais j'ai écrit d'autres choses avant qui n'étaient pas forcément très bien construites, et du coup là j'ai trouvé ça hyper pratique, parce que il y a l'ordre des événements, donc au final après on en fait un peu ce qu'on veut, mais on a quand même cette trame qui m'a permis de travailler. Et effectivement, en tout cas pour écrire, j'ai fermé tous les livres. Et j'ai écrit en suivant la trame des événements que j'avais prévu, mais voilà, j'ai coupé le travail de recherche et le travail d'écriture complètement.
Bruce Bégou, au fond, eu égard au caractère assez lacunaire du texte de Van Breda, la fiction s'imposait finalement. C'est presque un boulevard pour un romancier. Et vous avez pu déployer à loisir votre imaginaire.
Oui, parce qu'au début, quand j'ai commencé un peu à questionner quelques collègues, notamment ceux en Belgique, donc qui travaillaient encore aux archives Husserl à Louvain, beaucoup m'ont dit, mais Van Breda est mort en 74, mais beaucoup m'ont dit au fond que c'était quelqu'un de très discret, qui n'avait jamais vraiment raconté ce qui s'était passé pour différentes raisons, parce que sans doute il ne voulait pas compromettre d'autres gens, etc. Et même ces collègues-là belges qui me disaient, mais tu sais, on n'a pas vraiment de documents, d'éléments à te donner pour Et donc, au fond, j'ai fait de nécessité vertu. Parce que, bon, comme je n'avais pas vraiment de documents historiques, j'ai pris le parti pris de la fiction. Et même, j'ai même fictionnalisé, si on peut dire, même la propre vie de Van Breda, parce que je lui donne une autre enfance qu'il a eue. Et même l'histoire, si globalement, je suis à peu près ce qui s'est passé, j'ai modifié quelques épisodes purement par fantaisie. Puis, je n'aimais pas l'idée aussi de respecter l'histoire, aussi vous citiez le texte que j'avais publié chez l'Article, l'éblouissement des bords de route, c'était déjà d'emblée un texte qui mélangeait documents et fiction, et donc j'aimais pas comme ça faire un récit historique qui aurait été véridique. Donc même si, disons, à 80% de ce que je raconte, ça s'est à peu près passé comme cela, j'ai inventé. Alors par contre, je me suis aussi documenté, puisque j'ai inventé un personnage de la Gestapo, et donc là j'ai lu beaucoup de choses sur la Gestapo, les textes de Chapoutot sur l'idéologie nazie, sur la politique anti-catholique aussi du nazisme, parce que je parle beaucoup aussi de ça. Donc après, pour tout l'arrière-plan historique, j'ai fait quand même un travail un peu d'enquête, même si... je l'ai introduit dans le texte, souvent de manière très libre et comme ça, de manière incidente. Ce n'est pas vraiment un roman historique.
Alors, on va revenir en effet plus précisément sur le contexte historique, hein, puisqu'on était en 1938, année extrêmement importante, année des accords de Munich. On va revenir à vous dans un instant. Marie-Fleur Albecker, vous commenciez tout à l'heure à parler de la construction de ce personnage de Johanna Ferrour à partir d'une mosaïque d'autres personnages. Alors, cette femme, ça pourrait presque être une femme d'aujourd'hui quand l'histoire commence. Donc, elle vit dans un village, à la campagne, comme 90% des Anglais à l'époque. Elle a 32 ans, elle est mariée avec son deuxième mari. Elle a subi un viol, elle a dû ensuite épouser l'homme qui l'a violée. Après elle s'est mariée avec un homme. Enfin, elle a déjà une vie extrêmement bien remplie, et c'est une femme absolument libre et qui va au fond se greffer sur cette révolte en se disant, voilà, maintenant je veux vivre, il faut y aller.
Oui, c'est comme vient de le dire Bruce, je crois que, enfin, pour moi c'était aussi important, effectivement, bien que ce soit un roman qui a l'air d'être très historique, que ce soit pas ce qu'on qualifie de roman historique, c'est-à-dire de plutôt restituer, en fait, je sais pas, un esprit, quelque chose, une idée, et quelque chose d'universel. Et donc, effectivement, ce personnage de Johanna, c'était l'idée de représenter la révolte collective. Donc, il y a cette révolte de paysans à laquelle elle va se joindre. Donc, il y a une révolte sociale. Et puis, en tant que femme, elle va être une des seules femmes à se joindre à cette révolte-là. Et du coup, il y a une révolte individuelle qui se joue également. Donc il y a ces deux niveaux, et elle n'arrive pas très bien à les articuler, parce qu'elle se rend compte qu'elle est une femme et qu'elle est toute seule, et que du coup, dans ce mouvement, et que du coup, le fait qu'elle est une femme induit un certain nombre de discriminations. Et donc, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose qui est effectivement très universel, et que je trouve très intéressant d'interroger, finalement... par rapport à une femme du XIVe siècle, comme ça pourrait être une femme du XXIe siècle, finalement.
Voilà, je vais lire un extrait pour qu'on comprenne ce qui se passe dans la tête de Johanna. Johanna pense à la maison vide, aux moutons, aux champs. Elle se rend compte qu'elle s'en fout. Elle laisse William s'occuper de demander que son oncle et sa tante prennent soin de l'exploitation, puis ils discutent de ce qu'ils ont de mieux à faire. William n'est plus très chaud, il n'est plus tout jeune, et son côté notable, installé, lui titille l'estomac. Johanna est inflexible, elle veut marcher sur Londres. Tu me dois bien ça. Allusion jamais exprimée à ce mariage dont elle n'a pas vraiment voulu, à son corps qu'elle lui laisse quand il le veut sans qu'elle n'en tire ni plaisir ni enfant, à sa vie volée, enfin, volée en partie par William. Il argue, négocie, marcher sur Londres directement, c'est trop. Soyons messagers, tu pourras les convaincre. Allons dans le Kent, traversons la Tamise, soyons les représentants, soyons les brebis au milieu des loups, comme le Christ a demandé aux apôtres. Il donne tout ce qu'il a, William. Il se dit que d'ici qu'il soit dans le Kent, les choses auront bien le temps de se calmer. Voilà le début de l'engagement de Johanna dans cette révolte. Au fond, votre personnage à vous, Bruce Bégou, ce père franciscain, c'est aussi à sa manière un homme libre, un homme qui ne respecte pas complètement les règles.
Oui, alors de fait, je dirais historiquement, ça a été quelqu'un d'assez libre, parce qu'effectivement, quand il sauve les manuscrits de Husserl, il est très jeune, il a 26 ans, c'est juste un étudiant de philosophie, et il impose à sa hiérarchie et à son université, enfin il les met au pied du mur, puisqu'il ramène ses manuscrits, il ramène des chercheurs, etc., et il crée ses archives Husserl, donc c'est quelqu'un d'assez audacieux. Et moi, je l'ai traité effectivement comme une sorte de personnage linéaire. C'est-à-dire, il décide de les sauver et il va jusqu'au bout de son mouvement sans se retourner et même sans se poser de questions. Bon, juste à la fin, il y a une sorte d'angoisse finale. Mais il a une sorte de trajectoire. Et puis en plus, son habit de franciscain en fait pour moi une sorte de chevalier Jedi. D'ailleurs, je fais des allusions comme ça. J'utilise beaucoup d'anachronismes. Je fais des allusions un peu à la culture populaire et à la culture de masse. Et donc oui, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu, mais que j'aurais bien aimé connaître. Mais moi, je l'ai traité effectivement comme quelqu'un qui est toujours dans cet habit très sobre, très simple. et qui, par rapport au chaos qui l'entoure, lui, est une sorte de ligne claire. Et au fond, ça me ferait un peu penser comme Tintin, vous voyez, qui, au fond, est un personnage dans les bandes dessinées d'Hergé, qui n'a aucune expressivité faciale, pas de sexualité, pas d'histoire, etc. Mais qui avance toujours et qui n'a pas de psychologie, on ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Et mon Van Breda, c'est une sorte de Tintin en robe de bure, comme ça, qui... d'ailleurs, bon, il a pas un Milou, lui, il a un chat, mais et il avance comme ça, et c'est une sorte d'aventurier de l'esprit, au fond.
Parce que ce Van Breda est au fond un héros mineur. Son acte est absolument brave, absolument courageux. Et en même temps, on se dit que ce sauvetage est complètement fou. Parce que ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'il ne comprend pas, il ne peut pas lire le contenu de ses manuscrits puisqu'ils sont écrits en sténographie.
Oui, ça quand j'ai eu connaissance de l'histoire, ça m'a toujours surpris. C'est qu'il risque sa vie pour 40 000 pages de manuscrits écrits en méthode sténographique, que plus personne ne peut lire, parce que c'était une méthode sténo des fins du 19e siècle, méthode Gabelsberger. Et donc, à un moment donné, dans le roman, j'ironise, je me dis, mais si ça se trouve, ce que Husserl avait écrit, c'était des idioties, comme ça, et c'était pas vraiment des textes philosophiques. C'est-à-dire, on avait trouvé, à la mort de Gödel, on avait trouvé des manuscrits de Gödel, comme ça, et on pensait que c'était des manuscrits très importants pour l'histoire des mathématiques, et c'était des délires sur les extraterrestres, etc. Donc, et bon, ça pourrait être... Et donc, oui, il fait un geste héroïque pour des textes que nous sommes peut-être, depuis qu'ils ont été sauvés, peut-être 200, 300 à avoir lus, enfin, ceux qui ont vraiment, en tant que chercheurs sur Husserl. Donc, à l'échelle de l'histoire et l'échelle même de la culture, c'est une goutte d'eau, mais ça m'avait toujours surpris. Voilà, j'ai pas choisi un héros, il a pas sauvé des personnes, même si, de fait, ensuite, il a sauvé quelques personnes, mais c'est pas injuste au sens, comme on peut le dire, pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de ceux qui ont sauvé des Juifs. Il a sauvé des manuscrits d'un philosophe d'origine juive que personne ne lit. Et ce contraste entre les risques qu'il a pris, le moment de l'histoire et son parcours souterrain m'avait toujours comme ça saisi. Quoi.
Marie-Flore Abeka, est-ce que vous diriez de Johanna que c'est aussi une héroïne? Est-ce que à sa manière, parce qu'elle prend aussi des risques quand même en tant que femme?
Oui, déjà c'est l'héroïne du roman, donc. Mais oui, effectivement, c'est un peu et c'est drôle parce que j'ai retrouvé un peu dans ce personnage de Van Breda cette idée-là, comme Bruce dit, de ligne claire, c'est-à-dire qu'en fait Johanna c'est un personnage. Au bout d'un moment, elle a plus le choix, c'est-à-dire que voilà, elle fait ce qu'elle fait parce que ça s'impose à elle. Peut-être même qu'elle comprend pas forcément bien la nécessité de le faire, mais elle le fait, elle laisse tout. Voilà, quand on dans le texte là, elle laisse derrière sa vie, de femme mariée, bien installée, etc. Et du coup, oui, c'est quelque chose qui m'interroge effectivement cette dimension d'héroïsme, parce qu'en plus elle va se retrouver, c'est moi qui l'ai imaginé, mais elle va se retrouver à la tête des rebelles à un moment, donc elle va même initier des actions, donc se pose aussi la question de la violence par ailleurs, et de la violence physique puisque c'est une femme. Donc tout ça en fait, ça m'intéressait de me pencher sur un personnage comme ça, qui en plus est une héroïne qu'on peut voir de manière positive ou négative, c'est-à-dire que évidemment, du point de vue du pouvoir en place, c'est le genre de personnage qui peut être vu extrêmement négativement, c'est-à-dire parce que ils finissent par faire des actions quand même très violentes contre le gouvernement, et donc dans l'imaginaire anglais, je vous disais que c'est une révolte qui est très connue en Angleterre, elle fait partie un peu des hauts faits pour la gauche anglaise, des moments de haut fait, et des moments... la droite anglaise mobilise beaucoup cette révolte pour parler des paysans assoiffés de sang, etc. Donc ça m'intéressait aussi de me poser la question, comment on rentre en action, et en fait, est-ce qu'on est un héros pour les autres ou pas? Et puis aussi par rapport à soi, parce que finalement, c'est un peu spoiler, mais vous vous doutez que cette révolte n'a pas marché. Sinon, je pense qu'on la connaîtrait plus. Et donc la question, c'était aussi finalement, quand on est un héros ou une héroïne d'un épisode comme ça, très intense, comme j'imagine aussi ça a dû être le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on devient après? Comment on finit?
Bruce Bégout, pour continuer sur cette histoire de manuscrits, au fond, on se demande, parce que alors, les nazis auraient, s'ils étaient tombés sur les manuscrits, les auraient détruits à coup sûr, mais on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais en fait, ils n'auraient rien compris. Donc, est-ce qu'ils auraient détruit ces manuscrits parce que Husserl était juif, ou à cause du pouvoir subversif, absolument subversif, de ces manuscrits ?
Je pense que justement il y a un épisode dans le roman où le policier de la Gestapo donc commence à enquêter sur ce père Van Breda. Donc il sait qu'il essaie de sauver des manuscrits d'un philosophe nommé Husserl. Donc il va voir un peu les textes de Husserl, notamment le tome 1 des idées directrices. Et bon, et au bout de 10 pages, bon, c'est bien une migraine totale. Donc il commence. Mais je voulais aussi insister sur cet aspect parce que ces derniers temps il y a eu beaucoup de romans français sur la période du nazisme. Et j'étais souvent un peu déçu ou irrité de la manière dont c'était traité, où on traitait toujours, au fond, les nazis ou le nazisme comme une sorte d'idéologie bureaucratique, rationaliste, techniciste, etc. Et moi, j'ai essayé de montrer que c'était plutôt des voyous analphabètes. Enfin, la plupart venaient quand même de la rue. La plupart étaient un peu... voilà. Et ils avaient été recrutés d'abord chez les SA, et c'était quand même des gens qui aimaient surtout se saouler... se battre, etc. Et j'essaie de montrer ce côté beaucoup plus vulgaire, beaucoup plus... D'où le fait que j'utilise beaucoup la vulgarité, etc. Et moins ce côté léché, rationaliste, Eichmann à Jérusalem, ou moins le côté fonctionnaire. Les miens sont pas du tout des... Ils vont au bordel, ils sont vraiment... un peu, voilà, c'est plutôt des personnages grossiers. Alors forcément, quand ces personnages-là mettent le nez dans des textes de Husserl, bon, qui est une philosophie quand même très, très, très élaborée, etc., il y a une sorte de choc bon, qui est amusant aussi à traiter, parce qu'il y a quand même pas mal aussi d'humour et de décalage dans le roman, donc c'était amusant de faire une scène comme ça.
Alors justement, je voudrais lire un extrait, l'arrivée de Van Breda en Allemagne. Là, c'est un choc pour lui. Ceci. Tout est propre, effroyablement propre. Ce n'est pas comme en son bon pays Brabant où, dans les petites villes en briquettes noires et les grandes fermes en U, règne une sorte de négligé méridional. Pavés à demi arrachés, pans de murs avachis, bourrelets de détritus dans les rigoles, bouses séchées qui ponctuent les chemins. Ici, dans le Naziland, tout est d'une propreté impeccable et terrible. Pas la moindre pile de débris au coin d'une rue, pas le moindre papier gras, mégot, crachat sur le trottoir, pas le moindre amas de poussière dans un coin. Une vraie pub pour les détergents. Le pavé, lui, les enseignes étincellent, les caniveaux rivalisent avec les bains, on pourrait y faire sa toilette. Même les déchets ne sont pas jetés dans les poubelles, mais semblent y être minutieusement rangés comme des habits repassés dans un tiroir. Comme si on avait rincé les trognons de pommes et les autres rognures avant de les déposer. Aucun mur n'est bardé d'affiches arrachées ou d'inscriptions sauvages, cela va de soi. Nulle part une dérogation à l'ordre. Si par malheur un graffiti apparaît un matin, il semble aussi scandaleux qu'un attentat à la bombe. Vous êtes amusé à écrire ce passage.
Oui, parce que moi j'appartiens plutôt à un monde méridional où la négligence civile et civique me plaît. Et donc, dès que je passe la Loire, je suffoque un peu. Alors là, j'ai réglé un peu mes comptes avec quelques séjours en Alsace, vous voyez, comme ça. Donc c'est
je vous interromps, c'est drôle parce que je suis alsacienne et moi quand je lis ce texte je trouve ça oui normal, tout est très propre.
Voilà. Non mais c'était un contraste voilà de Van Breda comme ça qui est un personnage qui fume, qui boit, enfin c'est un franciscain un peu particulier et donc c'était pour utiliser avec ce contexte où là on trouverait le côté hygiéniste quoi et un excès, mais c'est aussi ce traitement de un peu toujours d'être un peu dans l'exagération et de créer un climat un peu expressionniste où tout est un peu exagéré par rapport à la simplicité de Van Breda, de son habit, de sa quête, etc. Au fond, tout autour de lui tourne d'une sorte de carnaval d'ombre et lui, plutôt un personnage de la simplicité. Donc à chaque fois, j'ai essayé de créer ce contraste entre son environnement et lui. Et lui, là, voilà, j'exagère un petit peu dans l'hygiénisme du contexte, mais bon.
Voilà, parce que enfin, ce qui relie aussi vos deux romans, c'est la langue très, très singulière que vous utilisez. Et presque, là, Bruce Bégout, vous êtes aux limites du roman de genre. Hein, c'est presque un roman d'espionnage, au fond. Il y a cette dimension-là aussi.
Oui, oui. En fait, il y a beaucoup de... En fait, j'aime bien mélanger les niveaux de langue et de faire des ruptures de ton. Donc, le début sur la mort de Husserl me semble être ce que j'ai écrit de plus émouvant de tout ce que j'ai écrit. Donc, et même la fin, l'épilogue sur la plage. Bon, j'ai essayé vraiment de créer un contexte pour émouvoir, en fait. Et après, j'essaie de faire varier comme ça et de passer d'un niveau de langue soutenu à un niveau de langue plus trivial, d'utiliser les anachronismes, des comparaisons un peu farfelues et parfois de faire des textes. Bon, parce qu'il y a quelques chapitres sur la vie de saint François d'Assise et là, au contraire, de les traiter de manière très, très classique, etc. Donc, alors, la forme plus générale est une sorte, de roman policier, enfin de roman noir. Mais à l'intérieur, il y a comme ça des variations de ton qui essaient aussi de rendre compte de cette cacophonie. On est en pleine crise de Munich et Van Breda est pris dans cette cacophonie de voix dissonantes, Hitler tout le temps qu'on entend à la radio et d'autres personnes. Donc c'était pas simplement un parti pris artificiel, c'était vraiment pour rendre compte de ce chaos dans lequel il est et le style, ces variations de style et de ton devaient au fond... dérouter un peu le lecteur, comme Van Breda lui-même était dérouté par rapport à ce qu'il vivait.
Voilà, il plonge dans l'histoire à pieds joints, d'un seul coup, comme on plonge dans un bassin d'eau froide, hein, c'est un peu ça. Marie-Fleur Albecker, on retrouve chez vous ce même choc entre, en effet, cette période historique lointaine et puis cette langue extrêmement contemporaine.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un travail. J'ai fait aussi un travail sur des ruptures de registres qui sont là liées en fait au fond de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a une révolte qui se fonde sur la volonté de. Bon, c'est des paysans au Moyen Âge, donc c'est quand même l'idée pour eux, c'est de retrouver la justice de Dieu. Donc il y a un absolu qui s'impose à eux et en même temps. Ce sont des paysans, donc il y a aussi, pour moi, l'anachronisme, en fait, en tant qu'en plus qu'enseignante d'histoire, ça n'a pas vraiment de sens, parce que je pense qu'on ne... Si j'écrivais comme Philippe de Comines, ça serait hautement artificiel. Donc je pense qu'on ne parle de l'histoire, ou on écrit l'histoire, ou on ne la raconte que d'un point de vue contemporain. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'il y ait une langue contemporaine qui puisse essayer de restituer ces enjeux. Très ancien, mais aussi très universel et très contemporain. Et puis, il y a aussi un parti pris d'essayer d'instaurer autant que faire se peut de l'humour, parce que c'est vrai que c'est un moment qui est, enfin, quand même, c'est quelque chose quand même d'assez tragique qui est en train de se passer. Mais bon, du coup, si on peut pas rigoler de temps en temps, c'est insupportable, quoi. Donc, il y a aussi cette idée que le rire, c'est, enfin, je crois quelque chose aussi de très profond et de très consubstantiel à la vie humaine. Et voilà, j'espère qu'on rigole aussi en lisant ce livre.
Puis, il y a aussi une multiplicité des points de vue. C'est-à-dire qu'on a le point de vue des paysans, mais on a aussi le point de vue du roi qui est extrêmement méprisant. Alors, ce qui est fascinant avec le roi à cette époque, donc si on retrace un peu le contexte historique, c'est qu'au fond, donc, il y a cette guerre de 100 ans entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France, et les deux sont au fond dirigés par des enfants. Des adolescents.
Oui, puisqu'il a 14 ans à l'époque, Richard II. Et en plus, c'est tous les deux des Français, parce que le roi d'Angleterre est un Français, en fait, à l'époque. Il est né à Bordeaux. L'anglais, c'est sa deuxième langue. Enfin, il parle le français, en fait. Donc ça, c'est aussi, évidemment, un des éléments qui va pousser à la révolte, parce qu'il y a un, comment dire en anglais, un estrangement. Enfin, les paysans voient pas trop qui est ce type, ce Plantagenet, finalement, qui fait pas partie de leur communauté. Et l'essai de, effectivement, faire parler de plusieurs voix, c'est parce que c'est un épisode... Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le collectif. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cette femme, elle va, c'est une individualité, qui va se rendre compte qu'elle a une révolte individuelle tout en rejoignant une révolte collective. Et moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup aussi parce que dans ma vie, j'ai milité. Et que j'ai toujours trouvé ça très compliqué en fait de faire partie d'un collectif. Et à la fois on se sent porté par plein d'idées, on est très heureux, on est pris dans une vague commune, et en même temps après on est ramené à son individualité. On se dit mais qu'est-ce que je fais là moi là dedans? Comment je peux créer quelque chose de commun avec ces gens-là qui finalement sont si différents de moi? Donc c'était aussi pour ça que j'ai essayé de restituer ces différentes voix. Qui toutes ont un point de vue différent.
Bruce Bégout, dans votre livre, on a les chapitres qui suivent l'itinéraire de Van Breda. On a les chapitres où c'est plutôt le gestapiste qui poursuit Van Breda. Et puis, il y a ces fameux chapitres consacrés à Saint-François d'Assise. Pourquoi ?
Parce qu'au fond, on ne comprend pas tellement les motivations de Van Breda, puisque je ne dis rien de sa psychologie, c'est pas un roman psychologique où il serait en train de se dire pourquoi je fais ceci. Et donc les romans de Saint-François d'Assise essaient de montrer au fond que faisant ce qu'il fait, il retrouve le geste héroïque et sacré de Saint-François d'Assise qui lui-même décide quelque chose et va jusqu'au bout d'une décision de créer un ordre religieux, alors que c'est un laïc, il peut être... Il peut d'ailleurs être tué par le pape, parce qu'à l'époque, Innocent VII, c'est lui qui crée l'Inquisition, c'est lui qui fait tuer les cathares, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui par rapport auquel la violence serait quelque chose d'interdit. Et donc les chapitres sur Saint-François, il y a 4-5 chapitres comme ça, essaient de montrer au fond la détermination du franciscain. Enfin, dans mon esprit, c'était pour mieux faire prendre conscience du propre itinéraire de Van Breda. Plutôt que d'essayer d'expliquer ses motivations, comme on dit, psychologiques, on comprend qu'il appartient à cet ordre et il reprend, au fond, une sorte de répétition de l'histoire.
Mais ces motivations, elles ne sont pas seulement individuelles, parce qu'il est quand même aussi mandaté par l'Institut supérieur de philosophie de Louvain, qui le soutient quand même un peu et qui lui donne quelques conseils quand même quand il part en Allemagne.
Oui, mais au départ, il devait consulter ses manuscrits et proposer la traduction et la publication de quelques manuscrits. Mais il ne savait pas qu'il y avait 40 000 pages de manuscrits. Et
100 kilos.
Voilà, et trois immenses valises, d'ailleurs qui ne sont pas encore tous retranscrits, c'est encore moins publié. Et donc lui, il prend la décision de les sauver, de sauver la bibliothèque de Husserl, de sauver les assistants de Husserl et de sauver la veuve Malvine Husserl. Et donc quand il écrit à son institut de philosophie, à son directeur de thèse et au doyen de l'université de Louvain, ils sont abasourdis, ils se demandent mais qu'est-ce qui lui a passé par la tête pour décider cela. Et donc il les met vraiment au pied du mur et il va réussir, enfin il va leur imposer cela, il va créer les archives Husserl à Louvain, qui a d'ailleurs une autre histoire, parce que les Allemands arrivent en 40 en Belgique et tout est à recommencer, et là il va cacher les manuscrits dans des fermes en Belgique, partout. Donc l'histoire que je raconte est un petit bout de l'histoire des archives Husserl, mais elle se continue aussi pendant la guerre, où au fond le même problème se pose. Donc il a été il a quand même fait preuve d'une audace et presque d'une obstination qui a un peu surpris c'est sa propre hiérarchie à la fois ecclésiale et académique. Oui.
Marie-Fleur Albecker, on parlait tout à l'heure de la question de la violence. Au fond, vous montrez très bien comment on passe d'une émeute à une révolte. Comment tout ça se construit et est-ce qu'il y a une structuration politique de cette révolte, parce que il y a plusieurs griefs qui les font aller à Londres pour aller voir le roi.
Alors oui, c'est en fait le premier grief, donc c'est les impôts, hein, ça c'est assez classique. En fait, en 89, enfin je veux dire, c'est pas du tout quelque chose qui est exceptionnel dans l'histoire des révoltes. Ça part d'un truc très concret. Et effectivement, ce qui est aussi intéressant dans cette révolte, comme dans beaucoup de mouvements sociaux qui ont pu avoir lieu, je pense notamment avant la période moderne, parce qu'à partir de 1789, on se rend compte que c'est possible. Donc ça va changer un petit peu quand même la structure des mouvements. Le grand problème, en fait, de cette révolte, c'est que finalement, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Bon, ils veulent la justice, donc ils commencent en plus à... Ils partent avec juste cette volonté de ne pas payer cette taxe injuste. Et puis après, ils se disent, bon, et finalement, pourquoi est-ce qu'on continuerait à avoir des serfs? On veut tous être libres. Parce que bon, il y a la guerre de 100 ans, mais avant, il y a eu aussi la grande peste, qui a beaucoup plus encore tué un tiers de la population européenne, au moins. Donc, en fait, il y a moins de monde pour travailler. Donc, ils revendiquent d'avoir des salaires plus élevés, puisque les nobles refusent d'augmenter les salaires alors qu'il y a moins de monde pour faire plus de travail. Donc, du coup, ils travaillent plus en gagnant moins ou en gagnant pareil. Donc, il y a aussi cette revendication-là. Et puis, petit à petit, effectivement, comme c'est un mouvement qui se fonde sur... Comme la justice, à l'époque, c'est une justice qui doit être divine, et que ce sont des gens qui, quand même, entendent ou lisent l'Évangile, parce que parmi ces paysans, il y en a qui savent lire. Quand on lit l'Évangile, qui est un texte qui peut être considéré comme éminemment subversif, il y a toutes les demandes d'égalité qui vont surgir, mais sans vraiment de programme politique, la difficulté étant aussi la figure du pouvoir, parce qu'à l'époque, le roi, il n'est pas encore considéré véritablement comme de droit divin, mais c'est un roi qui est clairement le représentant de Dieu sur terre. Donc pour les paysans, tout ça, ce n'est pas la faute du roi, c'est la faute de ses mauvais conseillers. Ce qui est aussi quelque chose de très finalement courant dans les révoltes. Donc au final, la question de la violence, elle se pose par rapport à qui et jusqu'où. Et effectivement, les paysans ne vont pas oser... toucher au roi, c'est quelque chose qui est quand même, bon, dans l'histoire, on le sait, très très rare. Et du coup, le fait qu'ils ne vont pas oser porter la violence plus loin... Bon, ils vont se faire rouler dans la farine par le roi. Et puis, ça va se finir très violemment. Mais c'est-à-dire que c'est l'autre camp qui va finir par reprendre le monopole de la violence et par écraser les derniers rebelles.
Bruce Bégout, l'un des sujets historiques très intéressants de ce livre, c'est de voir comment les franciscains, mais d'autres ordres catholiques, ont été poursuivis par les nazis. Il y a cette chose un peu paradoxale, à la fois l'archevêque de la ville de Fribourg, lui était plutôt collabo, on peut dire ça comme ça. En revanche, certains ordres, dont les franciscains, étaient pourchassés par les nazis. Et donc, Van Breda, avec sa robe de père franciscain, n'était pas risqué beaucoup de choses.
Oui, c'est bon. On connaît beaucoup la question de Pie XII et du rapport à la Shoah, etc. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Pie XI, en fait, était très sévère vis-à-vis du nazisme. Et il y avait une politique anti-catholique des nazis. Parce qu'ils étaient antisémites, parce qu'au fond, bon, catholique ou sémite, c'est la même religion des faibles, des dégénérés, de la culpabilité, etc. Donc par rapport à l'idéologie raciale du sang, du sol et de la mythologie germanique, c'était des orientaux. Donc, et dans le roman, je parle un peu de cette politique anti-catholique en montrant, alors là, en m'étant aussi documenté, en lisant des... que globalement, si le petit peuple catholique a plutôt résisté, notamment dans le sud de l'Allemagne où se déroule Bavière, etc., parce qu'ils essayaient d'aider les curés s'ils étaient tabassés, tout ça. Par contre, la hiérarchie catholique, elle, a plutôt été collaborationniste. Et à part le pape, bon, je parle de l'encyclique Mit Brüdern der Sorge qui critique et condamne le nazisme.
Donc Pie XI.
Oui, mais globalement, la hiérarchie catholique était tellement anti-bolchévique qu'elle préférait s'allier aux nazis plutôt que, au fond, c'était plus, on préférait Hitler que Staline. Mais le petit peuple catholique, et notamment, en fait, quand on regarde, et là, c'est des faits historiques, tous les gens qui ont aidé Van Breda et qui ont aidé même la famille Husserl à la fin, c'était des catholiques, Edith Stein, Adelgundis, Jägerschmidt, etc., c'était des sœurs. Donc je dirais que le peuple catholique, lui, globalement, a fait preuve de... Bon, j'avais écrit un livre sur Orwell qui s'appelait « De la décence ordinaire », a fait preuve de décence, alors que la hiérarchie catholique, et notamment l'évêque de Fribourg, Gröber, lui, il visite les camps de concentration en 1937, où il y a déjà beaucoup de catholiques internés, Et la seule chose qu'il dit aux journalistes, il dit « j'ai trouvé ça plutôt bien organisé ». Ouais, donc c'est le seul commentaire qu'il a à faire, alors qu'il a ses sœurs et ses frères catholiques qui sont enfermés, et beaucoup meurent. Hein. Dès 33, les premiers à partir sont les communistes et les catholiques. Hein, donc j'ai un peu traité de cet arrière-plan pour montrer, le danger que courait Van Breda, qui portant quand même des signes de sa religion, était tout de suite suspect. Il se fait quasiment cracher dessus dans le tramway, tout le Stürmer, etc. Enfin, plein de magazines et de journaux nazis n'arrêtent pas d'attaquer les catholiques. Hein, donc, c'est...
Il y a aussi en arrière-fond cette réflexion sur l'État totalitaire et le pouvoir, comment ça marche, comment la population adhère. Enfin, il y a aussi tout ça en arrière-plan.
Oui, c'était assez... Alors, beaucoup de travaux d'historiens pour savoir quel était... Mais c'est vrai que, justement, je reviens à ce texte d'Orwell, quand j'ai écrit ce texte sur la décence ordinaire et des gens ordinaires, beaucoup de gens m'ont dit « oui, mais regarde le nazisme, etc. » Et je pense que c'est plus compliqué, c'est-à-dire que, au sens où ça aurait été une objection, sans dire « oui, mais les gens ordinaires se sont convertis », je pense qu'il y a toujours quand même des structures hiérarchiques, partis, etc., qui créer les conditions, même de nos jours, voilà, qu'on critique le populisme, etc. Enfin, au fond, il faut toujours distinguer les gens ordinaires dans des situations, ce qu'ils font, pour les raisons pour lesquelles ils le font, et ensuite, ils sont peut-être pris dans des structures de pouvoir qui les incitent à faire peut-être quelque chose d'autre. Et là, avec la période nazie, c'est très intéressant de voir le contraste. Et notamment, il y a un personnage dans le roman, celui qui tient le kiosque à journaux, qui est un jeune garçon qui est un handicapé, qui lui est tout à fait lucide et voit clairement ce qui se passe. Et donc j'ai essayé de montrer qu'au fond, les comportements immanents, quoi, qu'on est sur la base, etc., sont beaucoup moins... caricaturaux que ce que la propagande et l'idéologie venant d'en haut veulent en faire. Même si, de fait, bon, on sait qu'il y a quand même une adhésion massive des populations.
Marie-Fleur Ablecker, dans votre livre, il y a aussi cette réflexion au fond sur le pouvoir, hein, enfin, comment ce pouvoir fonctionne.
Oui, alors le pouvoir, au Moyen-Âge, il a l'avantage d'avoir Dieu. Bon, c'est pas mal comme légitimation. Et justement, c'est effectivement là, c'est une des choses qui m'intéressait. C'est pour ça d'ailleurs que dans une des épigraphes, j'ai mis un texte de Martin Luther King, parce que, qui est un auteur, qui est quelqu'un de très important pour moi, mais parce que aussi, le religieux, je pense, quel qu'il soit d'ailleurs, il est à la fois, il peut être profondément propice à l'institution, mais il peut être profondément subversif. Et donc, du coup, cette révolte, ou l'idéal, en fait, peut-être même au-delà du religieux, et cette révolte, elle illustre un petit peu ces deux pans. J'ai aussi écrit ce livre en pensant, donc je vous ai parlé tout à l'heure de cette fameuse révolte des paysans au moment de la réforme, en fait, donc au moment où Luther commence à être très à bien marcher, quoi, à convertir des princes, il y a beaucoup de paysans qui se réclament de la réforme et qui disent bon, bah, puisqu'on va faire tout comme dans les textes, il va plus y avoir de prêtres, il va plus y avoir personne, va nous être supérieur, il y aura plus droit, on va élire nos pasteurs, on paiera plus la dîme, etc. Et donc ils demandent à Luther de les rejoindre, et Luther fait le choix stratégiquement intelligent, mais comment dire, idéologiquement plus contestable, de rejoindre les princes et de dire qu'il ne rejoindra pas. Il a hésité, puis il a laissé tomber ces gens. Voilà, moi je suis d'une famille très protestante, donc c'est un moment qui fait partie aussi un peu de des choses qu'on raconte dans le milieu protestant. Donc ça m'intéresse beaucoup. En fait, ça m'intéressait justement, voilà, de se poser la question sur finalement comment le pouvoir se légitime et comment finalement il peut se délégitimer sur la même base, mais comment les institutions vont finalement toujours réussir à se liguer pour se retourner en fait contre les c'est pour ça qu'on vous dit aussi c'est il y a une forme de contemporanéité, mais contre les, je sais pas, 99% en fait, quand on réfléchit, il y a aussi encore aujourd'hui des mouvements sociaux qui reprennent des slogans qui auraient pu être sans doute dits par ces paysans du XIVe siècle.
Parce que cette histoire, on la vit majoritairement à côté du peuple, au milieu du peuple. Et il y a une chose très intéressante, c'est de voir qu'au fond, si les souverains se font la guerre, le peuple de France et le peuple d'Angleterre, eux, ne seraient pas en guerre si ça ne tenait qu'à eux.
Oui, oui. Et là, c'est un. En fait, le fait qu'il y ait une guerre, je trouve, est un contexte qui est intéressant aussi. J'ai pensé pas mal en écrivant ce livre à L'Ouest, rien de nouveau, de Erich Maria Remarque, où justement, c'est un livre sur les soldats de troupes allemands en 14-18. Et il y a tout un passage où le soldat, le personnage principal, dit mais c'est quand même. Ça fait 4 ans qu'ils sont dans les tranchées, ils n'en peuvent plus, etc. Et ils disent, mais c'est quand même incroyable, pourquoi on n'envoie pas tous les généraux se battre dans une arène avec des bâtons, et puis à la fin, ceux qui restent debout, c'est ceux qui ont gagné. Et c'est vrai que, voilà, il y a aussi l'utilisation que le pouvoir fait de la vie humaine des populations qui sont dominées, qui me pose question. Moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas plus, de mutins pendant les guerres, c'est quelque chose que je trouve assez étonnant. Et effectivement, il y a des textes des historiens qui ont montré que pendant la guerre de Cent Ans, les rois d'Angleterre, à un moment, ont eu peur que, et les rois de France aussi, ont eu peur que la population se rebelle. Parce que les gens n'en pouvaient plus, parce que la guerre de Cent Ans, en France en particulier, c'est une des premières guerres qui affecte les populations civiles, puisqu'en fait, les villages français, c'est des champs de bataille. Donc il y a des villages entiers qui vivent dans des forêts pendant des années, parce que sinon, en fait, il y a le flux et le reflux des armées. Et donc, oui, effectivement, cette question aussi de la violence par rapport au pouvoir, c'est de se dire quelle est la violence légitime, pourquoi la guerre est la violence légitime, et pourquoi la révolte est la violence illégitime.
Bruce Bégou, le cœur de ce roman, ce sont donc ces manuscrits perdus de Husserl. Husserl, vous le mettez quand même en scène dans un très beau prologue. Vous écrivez la mort du philosophe. Il fallait l'incarner quand même.
Oui, oui, parce que c'est pas la mort de Socrate, donc c'est une mort plutôt humble. Hein. Et puis en plus, il dit quelque chose d'extraordinaire à la fin. Et Van Breda veut savoir ce qu'il a dit, parce qu'il dit à un de ses assistants. Et c'est quelqu'un, il faut savoir, bon, qui a toujours écrit toute sa vie 40 000 pages de manuscrits inédits. J'avais fait le calcul par rapport à l'âge de 30 ans quand il devient universitaire. Ça fait à peu près 2-3 pages par jour, tous les jours, pendant toute une vie, d'écrire vraiment de la philosophie très exigeante et tout. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a cette exigence, cette discipline. Et à la fin, vous savez, les derniers mots des philosophes ou des écrivains sont toujours savoureux. Hein, bon. Kant avait dit assez, voilà son dernier mot. Bon, je crois que c'est Tchekhov qui avait dit en allemand ich sterbe, je meurs. Voilà, c'est plutôt factuel, enfin très tchékovien. Et Husserl, lui, c'est le dernier mot qu'il dit est fascinant. Il dit je dois tout, j'ai vu quelque chose de merveilleux. Non, non, je ne peux pas le dire. J'ai vu quelque chose de merveilleux. Je dois tout recommencer à zéro. Alors, sachant qu'il a beaucoup à écrire, on s'est dit, oh non, mais déjà, on a du mal à tout étudier. Moi-même, ça fait depuis 30 ans que je suis dans ces textes, et même plus de 30 ans, donc, je suis dans ces textes, etc. Et donc, ça, sa mort a été un peu aussi fascinante. Et donc, Van Breda veut savoir, et Fink, à la fin, lui dit ce qu'il a dit. Et oui, j'ai essayé d'en faire une sorte de tableau émouvant, parce qu'au fond, j'ai quand même consacré 30 ans de ma vie à Husserl. Donc, ce texte a été. Je ne pense pas que je reprendrai forcément dans des prochains travaux aussi, vraiment, des faits historiques comme ça. Mais là, je voulais vraiment... oui, c'est un livre, au fond, d'hommage à la fois à la philosophie de Husserl et à Van Breda. Et donc, ça commence avec la mort de Husserl, parce qu'au fond, voilà, c'est quelque chose qui m'a ému, enfin, même si je l'ai imaginé, hein, parce qu'elle ne s'est pas vraiment passée comme je l'imaginais, parce qu'il a plutôt été... ensuite, il a été incinéré. Enfin, j'ai utilisé un peu les éléments historiques pour... je ne parle pas de tous les aspects.
Mais alors, enfin, comme vous l'écrivez, la phénoménologie, c'est pas de la tarte. Hein, je vous cite, c'est pas moi qui le dis. Mais quand même, on a le sentiment que vous faites un peu passer de la philosophie en contrebande.
Oui, mais le roman, je crois, peut se lire sans avoir aucune notion de phénoménologie ou de philosophie, parce que je ne parle pas du contenu des manuscrits, étant donné que Van Breda ne peut pas les lire. Il vient travailler, il est inscrit en thèse, il vient travailler sur la réduction phénoménologique, puis finalement, il ne travaille pas du tout. Il y a 2-3 scènes où il est en bibliothèque, où il est censé travailler, il s'ennuie, il commence à regarder par la fenêtre, etc. Ensuite, il croise Heidegger, que je ne nomme pas, etc. Donc, voilà, qui est l'autre philosophe qui, lui, s'est compromis avec le régime nazi. Et donc, au fond, je parle assez peu du contenu de la philosophie. Ce qui m'intéressait plutôt, je dirais, c'est l'éthos, enfin l'attitude, le comportement du philosophe. Hein. Thème d'ailleurs qui est très, beaucoup traité de nos jours, bon, dans les derniers textes de Foucault, etc. Au fond, est-ce que la philosophie n'est pas d'abord une manière de vivre plus qu'une théorie? Et ou qu'on trouve dans les textes de Pierre Hadot. Et ça m'a intéressé. Le vent de Bréda m'intéressait aussi pour ça, c'est-à-dire de voir est-ce que la philosophie nous transforme, est-ce qu'elle peut faire de nous des gens meilleurs ou pas, ou non. Et je n'ai aucune réponse, mais c'était un peu. J'ai préféré montrer, au fond, ce philosophe dans la vie de tous les jours, comment il agit, plutôt que de traiter du contenu des textes philosophiques. Donc, ce n'est pas du tout un roman théorique. C'est vraiment. Donc, oui, il y a quelques allusions comme ça, un peu ironiques à la réduction phénoménologique, mais c'est vraiment très discret.
Je pense à cette scène où Van Breda est dans l'antichambre de Malvina Husserl. Oui. Son esprit commence à errer. Il pense à la question du réel qui n'est pas un continuum et qui est fait de fragments.
Oui, parce que bon, la réduction phénoménologique est censée nous détacher, au fond, du monde dans lequel nous sommes pour suspendre notre croyance que nous avons en lui et de le regarder sous un œil neuf. Et en fait, là, je dis que comme il est tellement pris dans l'histoire, il ne peut plus la pratiquer. Enfin, il est dans ce que Husserl appelait le monde de l'attitude naturelle. Il est pris dans l'attitude naturelle. Et tant mieux, parce que parfois, il vaut mieux pas se détacher. Là, il s'engage, lui, dans la réalité. Donc, mais c'est vrai que la philosophie est vraiment à l'arrière-plan. Ce qui m'intéressait, c'était le parcours d'un philosophe ou d'un homme d'église. Mais au fond, on n'est pas très différent. Enfin, on consacre notre vie. Enfin, moi, je pense que je n'ai aucune conviction religieuse profondément. Enfin, je pense que même l'attitude religieuse, mais depuis mon jeune âge, mais étrangère absolument, même si j'ai été éduqué par les frères, etc. Par contre, ce que je trouve de proche, c'est qu'en tant que philosophe, enseignant, etc., je consacre ma vie à l'esprit, à transmettre l'esprit. Et au fond, je ne fais pas un métier très différent de celui d'un prêtre, d'un abbé, qui, lui, au fond, ne produit pas de choses, ne transforme pas la matière, ne vend pas des choses. Et on fait des métiers ou des vocations qui sont purement... spirituel, au fond, même si c'est très matériel, parce qu'à un moment donné, je dis manuscrit, voilà, l'esprit est incarné dans la matière. Si la matière n'existe pas, il n'y a pas d'esprit. Et donc, c'était aussi une manière, presque un autoportrait, parce que d'une certaine manière, je parle de ce qu'est un philosophe, ou de ce qu'il devrait être. Et comme je l'ai indiqué au début de l'entretien, si Van Breda n'avait pas fait cela, ma propre vie, enfin, c'est un peu le... reprenant l'expression de Pascal avec le nez de Cléopâtre, mais c'est pas le monde qui aurait été changé, mais en tout cas ma propre vie aurait été changée. Donc là, c'est un peu. Donc c'était une sorte comme ça d'hommage, quoi, à son attitude, vous voyez, plutôt qu'à. C'est pas un roman philosophique, c'est un roman sur, au fond, l'engagement d'un homme seul, isolé, un jeune franciscain belge dans l'Allemagne nazie, en pleine crise des Sudètes et de la crise de Munich, qui tout d'un coup, voilà, décide. Comme ça, de faire un acte dont il ne prend même pas conscience des effets et du danger même qu'il court. Oui.
Marie-Fleur Albécart, pour vous aussi, il y a une dimension d'autoportrait. Enfin, vous parliez tout à l'heure de votre militantisme. C'était aussi une manière de re-questionner tout ça, peut-être votre engagement féministe. Enfin...
Oui. Alors, il y a en plus dans le roman, il y a un jeu qui est pas très clairement défini, qui est peut-être un peu la prof, peut-être un peu moi. Donc ça varie un petit peu. Mais oui, effectivement, le questionnement féministe et notamment le questionnement féministe dans un collectif plutôt constitué d'hommes, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement et qui m'a interpellée dans ma vie. Et en fait, ça m'intéressait aussi justement d'avoir un personnage qui soit extrêmement distant quand même, parce que moi, j'ai pas du tout été violée quand j'avais 20 ans, j'avais pas d'exigence de justice, parce qu'en fait, ce personnage-là, alors ça, c'est un autre personnage à qui c'est arrivé, mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé au Moyen-Âge. En fait, elle se fait violer par son copain, son petit copain de l'époque, et elle exige justice. Donc, normalement, on a droit, pour les crimes de sang, à l'époque, on a droit à la justice du roi. Et elle exige la justice du roi, mais le tribunal local déclare qu'en fait, il va se déclarer compétent, et il la condamne à épouser son violeur. Ce qui est très courant, en fait, à l'époque, parce que c'était son copain, donc ça se savait qu'ils sortaient ensemble, etc. Et donc, en fait, elle est très... elle a quand même en elle cette révolte très profonde contre l'injustice, qui n'est pas forcément quelque chose que moi, j'ai connu, parce que je n'ai pas connu beaucoup d'injustice dans ma vie. Donc, c'était aussi... ça m'intéressait aussi, justement, peut-être de m'interroger sur des figures très fortes, en fait, de femmes, et qui sont capables aussi de se défaire de beaucoup de choses, d'être très, comme dit Bruce, la ligne claire, quoi. Et qui est quelque chose, moi, qui me fascine beaucoup, parce que c'est pas tellement, ça correspond justement pas tellement à moi, la manière dont je fonctionne.
Et puis, enfin, on le disait, il y a vraiment cette volonté de relier des événements qui paraissent lointains. On peut penser aux révoltes les plus actuelles, enfin comme les printemps arabes. Voilà, en parlant de cette révolte là, vous nous parlez vraiment d'aujourd'hui. Et puis je trouve, alors je sais pas si on peut appeler ça un courant littéraire, mais cette manière que vous avez de nous mettre au cœur de, juste à côté de ce peuple, hein, on a l'impression d'être au milieu du peuple. D'autres écrivains le font, je pense à Éric Vuillard, 14 juillet, le beau livre de Michel Audin sur la commune de Paris, comme une rivière bleue. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle manière de mettre en fiction l'histoire, justement par cette question du peuple ?
Oui, alors c'est une. Comment dire, c'est, dans l'historiographie aujourd'hui, c'est quelque chose qui. Enfin, les historiens aujourd'hui travaillent de plus en plus à ce qu'ils appellent le protagonisme, c'est-à-dire travailler sur comment les petits individus, tous ensemble, en fait, font l'histoire. Et qu'il n'y a pas que les grands individus, les rois, les ministres, etc. Donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est en train de... On revient, en fait, à cette manière de faire des romans. Mais je ne dirais pas que c'est nouveau, parce que si on pense aux Misérables, par exemple, on est aussi du côté des petits, enfin, de ces personnages, finalement, du peuple. Donc peut-être que c'est aussi une, je ne sais pas, une démarche de s'interroger, de se réinterroger. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous avez parlé des printemps arabes. C'est vrai que j'ai essayé, en fait, de travailler un moment sur des slogans en invitant des slogans d'autres révoltes ou révolutions, parce que pour moi, c'est quand même toujours le même moteur, en fait, fondamental. Et moi, ce qui m'interroge beaucoup, et je ne sais pas si c'est la même chose qui a mu Éric Vuillard ou Michel Audin, mais moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est pourquoi ça ne marche pas, en fait. Voilà. Pourquoi déjà ? Alors, et après, il y a tout ce problème de renverser le pouvoir dans un premier temps, et puis après, dans un deuxième temps, ce qui n'est pas ce dont traite ce roman, mais dans un deuxième temps, pourquoi ça ne marche pas, même quand ça marche ? Parce que 1917, 1789, 1848, 1870, bon, hein, ça marche au début, et puis après, ça marche moins.
Là, en l'occurrence, c'est des divisions, beaucoup, à l'intérieur du mouvement.
Oui, c'est ça, en fait, c'est le fait qui, en l'occurrence, là, c'est parce que c'est un mouvement qui n'est pas très structuré, qui ne savent pas vraiment, ils savent confusément ce qu'ils veulent, mais précisément, ils ne le savent pas. En même temps, s'ils le savaient précisément, ce serait peut-être 1917, et donc toutes les dérives qui ont suivi. Donc, en fait, c'est, moi, ce qui m'interrogeait, c'était vraiment ce paradoxe très profond entre cette espèce d'exigence qui revient de manière récurrente dans l'histoire de justice et d'égalité, et de l'autre côté, l'impossibilité récurrente à la réaliser.
Bruce Bégou, Marie-Fleur Albécart parlait tout à l'heure de l'après. Hein, qu'est-ce qui se passe après ? Un mot peut-être de l'épilogue de ce roman, qui est là encore une très belle scène, extrêmement mélancolique, méditative, presque un rêve au fond.
Oui, oui, je l'ai imaginé. Van Breda est mort en 74, donc j'ai imaginé un épilogue. Comme il faut savoir qu'il a dit très peu de choses sur cet épisode-là, et même les gens qui le connaissaient lui posaient plein de questions, et il était toujours très discret. Il voulait pas, enfin, une sorte d'humilité incarnée du franciscain. Et donc je l'imagine dans les années 70, dans le Zwin, qui est un parc naturel au nord de la Belgique. Où il a l'habitude d'aller se promener. Donc ça, c'est un fait vrai que des amis m'avaient dit. Et donc là, par un hasard des déchets retrouvés sur la plage, il y a un élément qui lui rappelle, au fond, ce qu'il a vécu 30 ans auparavant. Et par rapport, au fond, ça commence avec la mort de Husserl, et ça finit presque avec sa propre mort à lui, puisqu'il va mourir quelques temps après. Et c'était deux textes assez... très poétique, même, je dirais, même stylistiquement, où c'est à peine, on suit à peine la narration, enfin même dans la graphie, pour pour respirer quand même après ce polar un peu métaphysique, asphyxiant, où il est plongé quand même dans l'Allemagne nazie. Et là, il s'agissait aussi de prendre un peu, de s'aérer dans ces grandes plages du Nord et de retrouver une sorte de... Et puis c'était lié au premier titre que j'avais trouvé aussi, qui s'appelait Dunes errantes. Et c'est, vous savez, c'est ces mouvements de dunes qui bougent comme ça avec le vent. Et je trouvais que l'histoire est comme des dunes errantes, c'est-à-dire c'est du sable. Nous ne sommes que du sable, et en plus du sable mouvant. Donc non seulement le sable est mouvant, mais en plus les dunes bougent.
Et l'idée
de l'idée de se retrouver dans les dunes à la fin, et elles chantent. Et donc ce chant des dunes, etc., et ce sable qui bouge. Me faisait, enfin pour moi c'était l'image de l'impermanence de l'histoire, et lui il est devenu un héros, mais pour peut-être un hasard, parce que tout d'un coup il dit oui je vais les sauver, peut-être qu'il aurait revécu cette scène, il aurait fait toute autre chose, et donc c'est pour montrer que tout est extrêmement fragile, et même l'héroïsme au fond n'est pas prédéterminé, et que l'histoire ce sont que des dunes comme ça qui bougent, et donc des monceaux très fragiles de choses, et donc c'est la fin se veut comme ça une sorte de respiration. Et de se retrouver au milieu de ces dunes où Van Breda, au fond, se remémore cet épisode et explique l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas été intercepté, puisqu'il y a quand même une sorte de suspense dans le roman, puisqu'on sait tous que, enfin, on sait tous, mais que les archives Husserl existent, donc les manuscrits ont été sauvés, donc le suspense ne porte pas sur la manière dont il va sauver les manuscrits, mais pourquoi justement le type de la Gestapo ne l'a pas arrêté.
Mais on ne va pas tout dire et on va laisser les gens ici présents lire vos deux livres. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, monsieur. À votre endroit, madame, puisque c'est votre premier roman, quelle mesure vous accordez à votre éditeur a accompagné, qui vous a aidé à accoucher de votre manuscrit?
Alors, quelle mesure? C'est quelqu'un de très bienveillant, mon éditeur, donc ça, c'était très bien. Il m'a jamais trop emmerdé, alors qu'on était très... sur les dates, on était très contraints. Donc, il a été très optimiste, alors que j'ai fini un peu à la bourre, pour être honnête. Il m'a fait confiance. Donc... pour vous répondre concrètement. Après, si, il a beaucoup voulu... Ça, c'est très dur, mais je crois que tous les éditeurs font ça. Il a voulu beaucoup couper. Donc, il a fallu négocier. Qu'est-ce qu'il fallait couper, qu'est-ce qu'il fallait pas couper, parce que j'ai tendance à beaucoup digresser. Donc voilà. Mais j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de très bienveillant, de très gentil, et de très drôle. Donc, et puis j'ai aussi eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui, effectivement, que je connaissais, et donc qui m'a accompagnée le long de l'écriture de ce roman, sachant qu'il avait déjà lu d'autres textes de moi auparavant, qu'il avait trouvé très mauvais, mais il m'avait dit très gentiment. Il m'avait dit « Oui, j'aime beaucoup ton style, mais alors, c'est pas du tout la ligne éditoriale, malheureusement. » Voilà, donc du coup... Ce thème-là lui a mieux plu et tant mieux.
Oui. Ah oui, absolument. Du livre de Marie Fleur, oui. Johanna, encore cette surprise qui n'en est maintenant plus vraiment une depuis qu'elle a regardé au fond des yeux de la reine-mère. C'est ça un roi ? Elle tourne la tête et regarde Mathieu qui se retrouve à côté d'elle. C'est désagréable parfois, il la suit partout comme un chiot, on peut trouver ça flatteur, mais au bout d'un moment on a envie de lui dire d'aller se faire exploser les boutons d'acné ailleurs si on y est. Elle retrouve chez les deux adolescents la même pousse en pleine croissance, les grands bras dont ils ne savent pas trop quoi faire, et puis sur le visage une sorte d'ardeur, d'avidité pour le monde qui les entoure et qui s'agrandit, le monde qui vient. Encore naïve un peu et qui peut-être à la merci du moindre ébranlement, comme lorsqu'un immense espoir rencontre un mur de merde et se trouve réduit à néant. Ici, il faut préciser cette métaphore du mur de merde, que l'on pourrait à bon droit trouver vulgaire, Mais qu'évoquer d'autre quand on pense à la ferveur de l'adolescent déçu? Le mur de merde peut imposer un arrêt brutal lorsqu'il est constitué de briques de merde sèches qui permettent de faire un mur bien plus épais et solide, bien plus haut également. À l'inverse, Le mur peut aussi être façonné de merde coulante, ce qui a pour résultat un muret bien plus bas, mais dans les remugles duquel l'on s'enlise progressivement, sans jamais pouvoir le franchir alors qu'il semblait si bas. Ainsi, le mur de merde peut être constitué de merde de toutes sortes de consistances différentes, de la plus molle à la plus dure, suivant les situations. Un commentaire sur ce passage.
Oui, tout à coup, je me dis, ah, mais pourquoi on a choisi ce passage? Oui, mais c'était parce que c'était un passage, effectivement, sur l'adolescence.
Voilà,
la comparaison entre le roi et le cousin, en fait, de Johanna. Et c'est un petit hommage aussi à mes élèves.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, nous vous invitons à une séance de signature. Voilà. Et... et je vous retrouve à 16h30, ici même, avec Thierry Froger.